Thank you. vous êtes bien avec Radio Classique. Retrouvez Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Clément Tétu. Fondateur de Pépites, c'est un cabinet de ressources humaines dédié aux militaires. Vous les aidez à rebondir, à construire une nouvelle vie professionnelle lorsqu'ils quittent les rangs de l'armée, en moyenne à l'âge de 30 ans. Alors vous connaissez bien le sujet, vous êtes un ancien militaire, vous étiez dans les commandos marines. Que font les anciens militaires lorsqu'ils rejoignent les entreprises dans le civil? Quel type de poste est-ce qu'ils occupent généralement?
Eh bien, ce qu'ils cherchent avant tout, et en majeure partie, c'est des postes qui vont avoir une forte dominante de management. Leur objectif, concrètement, c'est de pouvoir accompagner les équipes, les faire grandir et les animer au quotidien. Et ce, dans des secteurs extrêmement variés. Typiquement, nous travaillons dans le secteur de l'environnement, de l'énergie, de l'industrie, des assurances ou encore de la grande distribution.
Ça, c'est ce qu'ils cherchent. Vous vous dites, ils occupent souvent des postes dans la sécurité, certains deviennent vigiles, et c'est dommage parce qu'ils pourraient occuper des postes à plus forte valeur ajoutée.
Alors après, chacun à ses propres ambitions. Maintenant, moi, j'ai en effet créé ce cabinet dans l'objectif d'ouvrir le champ des possibles et de valoriser ses profils. Car en effet, beaucoup s'orientent par mimétisme, typiquement dans le domaine de la sécurité. Bon, j'y ai travaillé, donc je ne pourrais pas dire que c'est un mauvais secteur, loin de là. Mais simplement, beaucoup sous-estiment finalement leurs propres aspirations et le fait qu'ils peuvent s'épanouir dans plein d'autres secteurs.
Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? Pourquoi est-ce que ce sont des profils très recherchés par les entreprises?
Eh bien finalement, je prends l'exemple de nos clients et pourquoi nos clients viennent, faire appel à nos services, c'est avant tout pour un état d'esprit. Ce qu'une entreprise va rechercher en recrutant un ancien militaire, c'est avant tout de l'engagement, un sens de la mission et certainement une vraie rigueur.
Oui, rigueur, fiabilité, résilience. Est-ce que les militaires ont conscience de cette valeur ou est-ce que le monde de l'entreprise peut aussi les effrayer? C'est très différent quand même de l'armée.
Alors il est certain que le monde de l'entreprise est très différent, ne serait-ce que dans le sens où on doit générer du profit, ce qui n'est pas présent clairement dans les armées. Le point majeur est qu'en effet, beaucoup de militaires sous-estiment leur potentiel parce qu'ils font partie d'un environnement où beaucoup de profils sont excellents et ils trouvent que c'est la normalité. Et donc le point majeur sur lequel nous travaillons avec eux, c'est aussi de générer de la confiance sur leur potentiel et de l'exploiter au maximum.
Est-ce que les anciens militaires arrivent facilement à s'adapter au monde de l'entreprise? Aujourd'hui, les méthodes de management, se sont adoucies. On demande moins de brutalité, un peu plus de respect de la vie privée. À l'armée, vie privée et vie professionnelle, la frontière, il n'y en a pratiquement pas.
Alors, il est certain que la frontière est assez fine dans le sens où le métier de militaire est assez prenant et prend une certaine part dans la vie de familiale, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que finalement, les jeunes recrues qui intègrent l'armée sont les mêmes jeunes recrues qui intègrent le monde de l'entreprise. Et donc, les militaires ont aussi dû adapter leur forme de management, leur forme de leadership, afin de s'adresser à ces nouvelles générations. Et dans les faits, les militaires, tous les 2-3 ans, vont changer d'affectation, vont devoir changer d'environnement, s'adapter à de nouveaux défis, et finalement, rejoindre l'entreprise, c'est que simplement rejoindre un nouveau régiment.
30 000 militaires quittent l'armée chaque année, en moyenne à l'âge de 30 ans. Est-ce que ce sont forcément les meilleurs qu'on retrouve dans le civil? On se dit, s'ils étaient excellents, ils seraient peut-être restés à l'armée. Est-ce que je me trompe?
Alors, je suis navré de vous dire que vous vous trompez, en effet, dans le sens où 30 ans, c'est très souvent l'âge auquel les militaires souhaitent consolider leur famille, et ils ne quittent pas l'institution du fait qu'ils soient, entre guillemets, mauvais, comme ce que vous pouvez souligner, avec humour, mais simplement parce qu'ils aspirent à un équilibre un peu plus simple pour construire leur famille.
Voilà, c'était aussi un trait d'humour, effectivement. Les militaires ne deviennent pas tous salariés. Certains interviennent comme consultants. Ils interviennent sur des sujets comme la cohésion d'équipe, la gestion du stress, et j'imagine que sur ces points en particulier, ils sont très demandés, très attendus.
En effet, au-delà du recrutement d'anciens militaires, on a deux activités, le déploiement de consultants en mission de management de transition et le développement RH où on fait du coaching, des séminaires et des formations. Et le point majeur, c'est que le militaire sait s'adapter dans une mer agitée. Il va faire preuve de résilience, gérer son stress de manière assez proactive pour derrière être efficace en opération. Et c'est ce que viennent rechercher les entreprises, ce retour d'expérience afin de consolider leur organisation et de promouvoir une démarche d'amélioration continue.
La cohésion d'équipe également, c'est quelque chose d'essentiel pour un militaire?
Alors ce n'est pas que c'est essentiel, c'est que c'est vital. Concrètement, le premier enseignement qu'une jeune recrue va apprendre au sein des armées, c'est que seule, elle n'est rien. Et donc de ce fait-là, c'est la force du groupe qui va permettre d'obtenir des résultats. Et c'est un état d'esprit que l'on veut aussi infusée et diffusée au sein des entreprises.
Vous avez aussi créé le collectif Women Special Forces qui valorise le leadership féminin en entreprise. Là encore, ce sont d'anciennes militaires ou pas seulement ?
Absolument, ce sont d'anciennes militaires qui ont évolué typiquement dans l'armée de terre, de la marine nationale et dans l'armée de l'air, qui vont partager les défis qu'elles ont pu rencontrer, les challenges qu'elles ont pu relever en matière de leadership en tant que femmes militaires.
Ouais. Sur les 30 000 militaires qui quittent l'armée chaque année, quel est le pourcentage de femmes ? J'imagine que ces profils sont assez rares.
Alors, les armées sont extrêmement féminisées. Typiquement, au sein de l'armée de l'air, c'est une des armes qui est la plus féminisée. Et donc, de ce fait-là, ces profils ne sont aucunement rares.
Ouais. C'est assez récent, cela dit.
Alors non, c'est pas du tout. Alors c'est assez récent dans certaines unités, oui. En particulier, on va prendre l'exemple des sous-marins. Mais pour le coup, le personnel féminin est très présent dans toutes les unités de la marine nationale, de l'armée de terre et de l'armée de l'air.
Certaines entreprises redoutent que les femmes à des postes de direction ne soient pas suffisamment fortes, surtout lorsqu'elles encadrent des équipes qui sont intégralement composées d'hommes. Est-ce qu'un profil militaire n'a pas tendance sur ce point à rassurer les entreprises ? On se dit qu'a priori, une ancienne militaire ne va pas se laisser impressionner.
Alors c'est bien le cas, et typiquement je prends l'exemple de trois intervenantes qui font partie du collectif Women Special Forces, l'une qui était officier renseignement et qui est intervenue au sein de l'unité de force spéciale avec une forte concentration d'hommes, c'est certain, et d'autres qui ont été les premières femmes à intégrer certains navires de la Marine Nationale dans les années 90. Et en effet, il y a une forme de résilience et de tempérance dont font preuve ces différentes femmes et qui interviennent en tant que rôle modèle au sein des entreprises.
Intégrer une ou un ancien militaire dans votre entreprise, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le cabinet de ressources humaines s'appelle Pépite, fondé par Clément Tétu. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
L'esprit des mots avec Luc Ferry qui tous les matins nous fait redécouvrir la mythologie. Bonjour Luc, ce matin vous nous parlez de Python et de Pythie, c'est l'oracle du temple d'Apollon.
Bonjour mon cher Stéphane, eh ben, on va parler de pourrir aujourd'hui. Pourquoi de pourrir ? Quel rapport avec un Python ? Quel rapport avec une Pythie ? Eh bien, les deux mots, le Python et la Pythie, viennent du verbe pitein, qui signifie en grec pourrir. Alors quel rapport avec un Python, le serpent qu'on connaît, un serpent d'ailleurs non venimeux, et puis une Pythie, donc qui est l'oracle de Delphes, l'oracle d'Apollon. Alors, lorsque Apollon décide d'établir son sanctuaire près de Delphes, au pied du Parnasse, alors, il y a dans la région un monstre, un dragon sanguinaire qui terrorise la région, qui dévore les humains, qui dévore les troupeaux de bêtes. Et évidemment, Apollon, qui est un archer divin, il ne faut jamais oublier qu'il est aussi le frère d'Artémis, de Diane. Donc, ils ont tous les deux appris à tirer des flèches de manière extraordinaire. Et donc, il transperce ce monstre de flèches et il le laisse pourrir, Pitain. C'est pour ça qu'on va l'appeler un Python. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, Apollon, il va continuer. Quel rapport avec la Pythie ? La Pythie, c'est dames qui sont les oracles du dieu de Delphes. Eh bien, il va enterrer le Python, figurez-vous, dans ce qu'on appelle dans un temple l'omphalos. En grec, omphalos, ça veut dire le nombril. C'est le nombril du temple, c'est le cœur du temple. Et c'est à partir de ce sépulcre qui est au cœur du temple, si je puis dire, qui est le nombril du temple, que la Pythie est chargée de délivrer ses oracles. D'où son nom de Pythie, qui est lié au nom du Python, qui est lui-même lié à cette idée qu'il avait pourri sur place parce qu'il était mort et qu'on l'avait enterré, qu'Apollon l'avait enterré dans l'Omphalos. Alors après, il y a un autre mot en français qui va apparaître dans cette tradition des oraculaires des Pythies, c'est les paroles sibyllines. Vous savez ce que c'est que des paroles sibyllines ? Ce sont des paroles qu'on ne comprend pas, qui sont difficiles à décrypter. Eh bien, ça vient là aussi de cette histoire du Python et des Pythies. Il y avait une Pythie très célèbre qui s'appelait Sibylle. Elle était tellement célèbre que son nom propre va finir par devenir un nom commun. Et comme tous les oracles, elle délivrait des paroles qu'on peut appeler sibyllines, parce qu'encore une fois, les paroles des oracles étaient toujours très difficiles à comprendre. Il fallait les décrypter, que ce soit par exemple à propos de Narcisse, quand les parents de Narcisse, quand il est tout bébé, vont demander à Tirésias, au devin, qu'est-ce qui va lui arriver ? Est-ce qu'il va vivre longtemps ? Est-ce qu'il va vivre bien ? Est-ce qu'il va vivre vieux ? Ben, Tirésias répond, oui, il vivra bien, il va vivre vieux, mais s'il ne se regarde pas trop, et personne ne comprend ce que ça veut dire, on comprendra évidemment après que Narcisse passe sa vie, lui aussi, à se regarder l'omphalos, à se regarder le nombril, et que c'est ça qui va lui pourrir la vie.
Merci beaucoup, Luc Ferry. On se retrouve demain matin.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Bonjour Étienne Lefebvre.
Bonjour David.
Donald Trump a donc annoncé hier soir la suspension des droits de douane massifs qui venaient tout juste d'entrer en vigueur. Ça vous a obligé à changer votre chronique du jour. Comment expliquer un tel revirement ?
Alors David, les raisons sont multiples, mais on avait vu poindre les divisions ces derniers jours dans le camp Trump entre les partisans d'une ligne dure pour qui les droits de douane sont une fin en soi et ceux pour qui c'est un outil de négociation afin d'obtenir des accords. Seulement pour négocier, il faut du temps, ça prend des mois et dans l'intervalle, l'économie risquait de s'écrouler, ce que Donald Trump a fini par comprendre. Et puis, vous ne négociez pas avec un pistolet sur la tempe, surtout pour les pays considérés comme des alliés de l'Amérique, dont les États-Unis vont avoir grand besoin dans la guerre commerciale avec la Chine. La Maison-Blanche ne peut pas se brouiller avec tout le monde, ça c'est pour la tactique politique. Et puis l'autre raison, c'est bien sûr la pression des marchés financiers.
Le plongeon de la bourse lundi dernier n'avait pourtant pas fait bouger Donald Trump.
C'est vrai, mais il n'y avait pas de comportement de panique. En revanche, la situation s'est envenimée mercredi matin. On a vu en particulier les taux d'intérêt sur la dette américaine s'envoler, alors que normalement, c'est une valeur refuge la plus sûre du monde. Parmi les vendeurs de dettes américaines, il y a la Chine, deuxième détenteur de titres après le Japon, qui dispose là d'une arme de destruction massive. Mais il y avait aussi un mouvement général de défiance vis-à-vis des actifs américains. Les économistes redoutant une croissance atone et une forte inflation, le dollar aussi était attaqué. Donald Trump a d'ailleurs reconnu hier soir qu'il surveillait le marché de la dette avant sa volte-face. La corde de rappel financière a donc joué. C'est cet aveu qui a fait s'envoler Wall Street hier soir, même si, attention, les 90 prochains jours ne seront pas de tout repos.
L'éditorial d'Étienne Lefebvre avec les échos qui titre ce matin « Droit de douane, le yo-yo de Trump ».
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Stéphane, votre invité, le directeur général de Massif.
Bonjour Jean-Philippe Denieton.
Bonjour Stéphane.
Bienvenue sur Radio Classique. 6 millions de sociétaires, pratiquement 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous venez de publier un bénéfice annuel en nette progression, plus 31%. On va y revenir dans un instant. D'abord, quelques mots sur la guerre commerciale avec les États-Unis. Les choses s'accélèrent. Est-ce que ce matin, vous êtes soulagé de la suspension des droits de douane pour une durée de 90 jours annoncée par le président américain ?
Avant de nouvelles surprises, oui, sûrement. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, un retour à la normale. Mais le mot qui nous caractérise sur la période, c'est la volatilité. On est toujours soumis à la surprise. Et je ne sais pas qui avait repris cette image, un peu surprenante et risible, même si la situation ne l'est pas. C'est le plongeur qui fait la bombe dans la piscine et qui arrose tout le monde, mais qui s'arrose lui-même. Et donc c'est un peu ça, c'est l'arroseur arrosé. Mais voyons ce qu'il en sera dans les prochains jours et prochaines heures.
Les taux s'étaient nettement tendus sur le marché obligataire américain, notamment sur les taux à 30 ans. Vous pensez que ça a pu peser dans la décision de Donald Trump de faire marche arrière ?
Oui, immanquablement, les marchés l'ont ramené à une forme de raison. Et c'est vrai que l'augmentation de la dette américaine, du coût de la dette américaine, était une pression très très forte.
Oui, on parle assez peu du marché obligataire en général, mais c'est ce qui avait fait tomber la première ministre britannique, Liz Truss, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Les assureurs investissent dans l'immobilier, mais aussi sur les marchés financiers. C'est comme ça qu'on place les réserves quand on est un groupe comme le vôtre. Est-ce que vous êtes inquiet de la très forte volatilité ?
Alors, la volatilité est toujours un élément d'inquiétude. En revanche, il n'y a pas d'inquiétude sur le risque de liquidité. Et par ailleurs, on voit bien que les souscripteurs, les adhérents, eux ont toujours un pas de recul. Ils ont appris au travers des crises successives et des tensions à gérer leur patrimoine. Donc ils laissent passer l'orage, beaucoup plus de recul que d'autres acteurs.
On va parler de vos résultats. Pratiquement 179 millions d'euros de bénéfices l'an dernier, plus 31%. Comment se porte le marché de l'assurance ?
Mais écoutez, cette année succède à 2 années qui avaient été difficiles, hein, parce que la charge climatique avait impacté les assureurs en 2022 et 2023, avec des charges qui atteignaient 10 milliards d'euros. Et effectivement, cette année est meilleure pour cette raison-là, principalement, mais pas que. Mais pour autant, ça reste un niveau élevé. Et on aura peut-être l'occasion de reparler de ce qu'est le climatique en matière d'assurance et pour nos concitoyens.
Oui, justement, la multiplication des catastrophes naturelles, c'est un vrai sujet pour les assureurs. On a bien compris que le climat, ça n'était pas la priorité de la nouvelle administration américaine. En Europe, certains se demandent aussi si la Commission européenne ne va pas détricoter une partie de son pacte vert en voulant simplifier l'économie. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, en tant qu'assureur, d'un éventuel retour en arrière sur les questions environnementales ?
Oui, bien sûr. En tout cas, on doit considérer la réalité. La réalité, c'est le dérèglement climatique crée des violences qui touchent les populations, mais crée des charges qui sont tout à fait considérables. Et ça, c'est la réalité. On peut dénier, on peut contester tout, mais la réalité vous rattrape toujours. Donc, il faut garder le cap. La question climatique est absolument centrale. Elle est le pivot de tout, de la transformation des modèles, de la vie en société, de la mutualisation quand on en fait partie d'un même ensemble. Et donc, il faut garder ce cap-là. Simplifier, c'est toujours une bonne méthode, mais il ne faut pas abandonner les sujets qui sont notre actualité.
Est-ce que la Massif et sa maison mère, le groupe AEMA, va conserver le même niveau d'engagement sur le plan environnemental ?
Toujours. De toute façon, c'est génétique, c'est constitué à notre modèle. Nous vivons avec ça génétiquement. Nous sommes drivés par l'intérêt général, la portée de notre impact. Et donc, c'est très, très important de garder ce cap.
Les tarifs de l'assurance, c'est la question qui fâche. Ils ont beaucoup augmenté depuis quelques années dans l'assurance automobile. Vous faites remarquer à juste titre qu'on répare de moins en moins et qu'on a tendance à remplacer les véhicules accidentés. Évidemment, ça coûte plus cher. Pour quelle raison est-ce qu'on répare de moins en moins ?
Oui, ça fait partie des injonctions contradictoires. On partage tous l'idée qu'il faut agir sur la durabilité. Et en réalité, on crée des véhicules qui sont de plus en plus cher, donc moins accessible aux concitoyens, difficilement réparable parce qu'il y a beaucoup de technologies, alors que le véhicule électrique devrait être plutôt basique. Et donc on est parti sur un axe où les véhicules sont de moins en moins réparables et qu'en réalité, chaque fois qu'il y a un accident, on change directement la pièce. Et là, c'est une injonction contradictoire entre la durabilité et la réalité. Il faut réconcilier les deux et c'est très important que les constructeurs considèrent cette option comme vraiment fondamentale.
Des hausses de tarifs également dans l'assurance santé, plus 30% pratiquement depuis 2019 et même davantage pour les personnes âgées. Vous dites on ne peut pas faire autrement. Le gouvernement transfère de plus en plus de charges sur les assurances complémentaires.
Oui, alors peut-être deux considérations. La première, c'est que la population vieillit. On rappelle que 20% de la population a plus de 60 ans, 30% à l'horizon 2050, et évidemment, ça impacte les coûts. Deuxième observation, c'est que le coût de la santé en général augmente et les traitements également. Et à partir de là, il faut bien lisser les choses dans le temps. Si vous surajoutez à la fois des taxes, ce qui est le cas, 2 mois de votre contrat santé sont constitués par des taxes, 3 mois en matière automobile, bien finalement vous privez une partie de la population de l'accès à la protection. Et je crois que c'est vraiment contre-productif. Donc transférer, alimenter en plus de taxes, en plus des surcoûts de la santé initiale, eh bien, c'est jouer contre son camp et jouer contre nos concitoyens.
Le gouvernement envisage de taxer à nouveau les complémentaires santé cette année. Vous pensez qu'ils vont encore vous faire les poches ?
Oui, vraisemblablement. Mais il faut poser là-dessus une vision de long terme. Le gouvernement a des contraintes de très court terme. La vision assurantielle, elle est de long terme. Parce qu'elle est statistique, elle est prévisionnelle, elle anticipe les événements. Et par conséquent, il faut réconcilier là encore le court terme et le long terme, mais ne jamais sacrifier le long terme. On l'a vu trop avec les médecins et les territoires aujourd'hui désertifiés.
Massif fait désormais partie du groupe AEMA, aux côtés d'Aesio Mutuel, oui, d'Abeille Assurance et de Ophi Invest. Qu'est-ce que ce regroupement qui est effectif depuis janvier 2021 vous a apporté ?
Ah, ça fait évidemment un effet d'échelle, d'une part, et puis un effet de diversité. Diversification qui est très large. C'est-à-dire que les populations que nous touchons sont très diverses, avec des réseaux de distribution qui sont multiples, avec un impact forcément plus fort. Donc dans un moment où il y a des effets de concentration, de diversification, il faut pouvoir parler de santé, d'automobile, d'habitat, d'épargne. Il faut être le plus large possible et le plus diversifié possible.
Est-ce que ce regroupement vous permet d'être encore plus compétitif sur le marché de l'assurance ?
Alors, il faut être compétitif. Le modèle mutualiste, c'est un modèle redistributif. On redonne de la valeur, on redonne du pouvoir d'achat. Donc il faut à la fois financer ses investissements, financer son corps social, mais il faut surtout être redistributif pour permettre l'accès à la protection.
Vous n'avez pas d'actionnaire ?
Nous n'avons pas d'actionnaire. Et ça, c'est une option de temps long.
Merci beaucoup. Jean-Philippe Donieton, directeur général de La Massif. On rappelle les chiffres. 6 millions de sociétaires, pratiquement 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un résultat net annuel en progression de 31%.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Bonjour Christian.
Bonjour David.
Le soir de son retour d'Égypte, mardi soir, donc Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtra l'État palestinien d'ici le mois de juin. On attend vos explications. Que cherche Macron en annonçant la reconnaissance de l'État palestinien et surtout en ce moment ?
Alors, il faut resituer la séquence. Elle se situe à l'issue d'un voyage que vous venez de citer, où le président Macron a rencontré à la fois le président Al-Sisi d'Égypte, donc le plus grand pays arabe, et le roi Abdallah II de Jordanie. Et évidemment, ils ont parlé de l'impasse complète qui se produit à Gaza et sur la question palestinienne en général. Donc, pour répondre à votre question, le premier objectif de Macron, c'est sûrement de relancer la solution à deux États dont plus personne ne parle, tellement la situation à Gaza est préoccupante et l'emporte sur tout le reste.
Alors l'idée, c'est aussi de donner un rôle à la France et entraîner l'Europe derrière elle pour relancer cette fameuse solution à deux États.
Exactement. La France peut jouer un rôle de leader. Elle a encore un certain poids international. Une audience dans les pays arabes, comme Macron a pu le vérifier il y a quelques jours à peine. Et en utilisant tous ses atouts, la France pourrait tirer d'autres pays de l'Union européenne et l'inviter à la suivre. Mais ça la met en porte-à-faux complet avec la Maison-Blanche et la politique qu'entreprend Donald Trump par ailleurs vis-à-vis de cette région.
Y a un détail qui n'en est pas un, c'est la position de l'Égypte vis-à-vis des réfugiés palestiniens. L'Égypte n'en veut pas, donc elle soutient plutôt une solution à deux États pour que les Palestiniens restent chez eux.
Oui, c'est pas faux, mais vous pouvez ajouter à la liste aussi la Jordanie. La Jordanie n'en veut pas non plus. Elle a déjà accueilli plus de 60% de sa population qui est d'origine palestinienne. Donc ce sont des pays qui, et l'Égypte en raison de sa grande misère et de ses problèmes de terrorisme, et la Jordanie en raison de sa grande tolérance à l'égard des Palestiniens, qui n'ont pas du tout l'intention d'accueillir des Palestiniens en provenance de la bande de Gaza, ce qui, encore une fois, est le projet des Israéliens et des Américains.
Alors, les annonces, c'est bien, les feuilles de route, c'est mieux. Comment Macron va-t-il s'y prendre ?
Alors, tout est là, et l'originalité de sa démarche figure sur ce point. Macron essaie de mettre en balance la reconnaissance de l'État d'Israël par un très grand pays arabe, qui est l'Arabie Saoudite, en échange, évidemment, de la reconnaissance par Israël d'un État palestinien un jour, on va dire. Restons dans le vague, parce que ça pourra pas être plus que ça. Simplement, voilà, le problème, c'est qu'Israël ne veut, en tout cas l'Israël de Benjamin Netanyahou et de sa coalition parlementaire à la Knesset, ne veut absolument pas entendre parler d'État palestinien.
Alors ce plan a-t-il une chance de réussir? Et pourquoi au mois de juin, d'ailleurs, la reconnaissance, pas avant, pas après?
Parce qu'une rencontre est prévue avec l'Arabie Saoudite et que c'est l'élément tout à fait clé et décisif. La France n'agit pas seule, elle s'appuie sur l'Arabie, elle a comme soutien, encore une fois je viens de le dire, l'Égypte et la Jordanie. L'idée c'est de créer un noyau dur et de revenir à la proposition saoudienne qui est d'échanger la reconnaissance d'un État palestinien par Israël avec la reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite et par d'autres États arabes. La France serait une sorte de conducteur de ce grand projet.
Et d'agrégateur. Christian Macarian, merci. L'écho du monde, c'est demain, 7h40 évidemment. À suivre le journal imprévisible. Et si les Français cessaient d'acheter américain, de quoi se priveraient-ils vraiment? De jeans, de motos, de beurre de cacahuète ou de pistache? Marc Bourreau a fait sa liste.
Radio Classique. Le journal imprévisible.
Avec Marc Bourreau. Bonjour Marc.
Bonjour David, bonjour à tous.
Moto, soja, volaille, cosmétiques, l'Union européenne a dévoilé hier sa première liste de produits américains bientôt frappés par de nouveaux droits de douane. Un dossier très sensible en France, car on ne compte plus le nombre de produits de l'oncle Sam qui ont envahi notre vie quotidienne.
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie.
Et s'ils n'étaient pas là, David, nous aurions attendu un peu plus longtemps avant de mâcher leur chewing-gum. C'est l'histoire dans l'histoire. La libération de 44, c'est aussi la découverte de la pâte à mâcher et du paquet de clopes dans un large sourire.
Les Parisiennes, en échange des cigarettes, donnent ce qu'elles ont, un peu de rouge à lèvres.
Venez tous
Venez tous
Venez tous
On va chanter notre soir d'aujourd'hui.
Et La Soif d'aujourd'hui, chantée par Eddie Mitchell, qui fait une promotion.
J'avais oublié cette pub.
Oui, qui fait une promotion pour cette boisson gazeuse à l'étiquette rouge. Elle remplit le frigo des Français. Elle remplit même celui de François Truffaut.
Vous voulez un truc à boire ?
Bah oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a un peu de tout, de l'eau minérale, du Coca-Cola.
Un Coca, oui.
Évidemment, les produits américains, c'est un inventaire à la Prévert, cet imaginaire teinté de fascination dans les chansons de Gainsbourg.
Pan American Building. CBS Building. RCA Building. First National City Bank.
Et on va s'arrêter là sur l'inventaire des géants de béton et d'acier et des magasins couleur brique et jaune à l'aube des années 80. David, le pays d'Auguste Escoffier découvre le fast-food.
Un endroit où on sert des espèces de brioches avec dedans du steak haché.
Donnez-moi, madame, s'il vous plaît.
Et William Scheller se met à la sauce barbecue. La France découvre de nouveaux modes de consommation.
Sur place ou importé?
Le jambon beurre a de quoi se faire du souci.
100 secondes pour faire cuire une tranche de steak haché congelé. 55 secondes pour toaster et saucer. Quelques gestes pour la salade, les oignons, les cornichons, le fromage. En 2 minutes exactement, le client est servi.
Mais vous préférez pas manger un petit repas chaud ailleurs
Non. Parce que dans les cafés, c'est très cher, c'est long.
Et il y a la nostalgie de l'Amérique ?
Un petit peu.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson.
Ouais, vous l'attendiez évidemment, l'art de vivre change de standard. Ces voitures, ces motos et ces pièces détachées venues de l'autre côté de l'Atlantique. 30 ans en arrière, David, Johnny Hallyday en faisait l'amère expérience.
J'ai cassé la boîte de vitesse de mon Harley. Il faut qu'il me change la pièce et il doit venir du Wyoming. Ça va prendre quelques jours, alors je crois que je vais descendre la moto de Pierre Richard qui nous a gentiment laissé.
Vivement que j'ai ma moto, moi. Ouais. Le guidon ne me convient pas du tout sur cette arme.
T'achètes des disques américains. Tu te croirais déshonoré d'acheter des disques en français.
Et l'Amérique, ses motos, sa musique, ses bottes, ses lunettes de soleil et ses fameuses paires de baskets à virgule.
Ah, c'est un certain style, une mode. Puis tout le monde aime ça aussi, la sophistication des pompes.
J'en ai 4 paires, ouais. Pour savoir se limiter, parce que ça coûte une petite fortune.
Mais oui, il faut être à la mode et c'est la jeunesse, le cœur de cible. Tenez, dès 84, elle se plaignait des ordinateurs français installés dans les classes et demandait des comptes au président François Mitterrand.
Est-ce que les ordinateurs qu'on met dans les écoles actuellement ne sont pas en quelque sorte technologiquement dépassés?
J'ai rencontré moi-même plusieurs des grands industriels en matière d'informatique. J'ai rencontré les dirigeants de Apple en particulier.
Apple. Oui, Apple. Et oui, il faut se mettre à la page. Hein. France-États-Unis, c'est parfois un choc des cultures. Mais les Américains savent y faire.
Welcome to Walt Disney Company. For the best.
For the best. Quand Chirac parle la langue de Mickey, bien avant la plateforme vidéo, il y a eu les peluches et les trains fous avec Disneyland Paris.
Bienvenue à Marne-la-Vallée. Vous ne rêvez pas. C'est bien le château de la Belle au Bois Dormant en direct.
Un Tchernobyl culturel. Un cheval de Troie pour ses détracteurs, le temple de l'oncle Sam n'est pas au goût de tout le monde, y compris, là encore, de François Mitterrand.
Est-ce que vous pensez que Euro Disneyland menace notre identité culturelle?
Ça va faciliter la multiplication des emplois toujours dans cette même région. Quant au mode culturel, disons que c'est pas exactement, comment est-ce que vous disiez à propos, c'est pas exactement ma tasse de thé, quoi.
Et pourtant, une chose, David, qui ne pourra pas se taxer, c'est cette puissance douce, ce soft power américain, un standard, un maître étalon, qui n'est pas prêt de disparaître.
Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant.
Marc, vous vous souvenez de cette pub pour le ketchup qui disait « Ketchup Heinz, le goût de l'Amérique ».
Voilà, c'est ça.
Et puis il y avait le cowboy Marlboro aussi, etc. Et etc. Bon, j'arrête parce que ça fait de la publicité, donc c'est interdit, c'est pas bien. Vous revenez lundi et à ma place, mon cher Marc, puisque vous assurez la matinale en mon absence toute la semaine prochaine, parce qu'il y a quand même quelques vacances à prendre.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Pour le décryptage de l'économie, Hartung, en plein déclenchement de la guerre commerciale, l'Allemagne a un message pour les États-Unis de Donald Trump.
Rendez-moi mon or. Le message reste pour l'instant dans la boîte à courriel, mais l'Allemagne semble prête à appuyer sur le bouton d'envoi. Plusieurs députés de la CDU, membres de la majorité, avancent l'idée que l'Allemagne aurait intérêt à rapatrier son or stocké dans les coffres de la réserve fédérale à New York. L'un de ses parlementaires a déclaré dans l'économie Stern du journal Bild, le plus lu en Allemagne, que le retour de Trump à la Maison-Blanche était de nature à remettre en cause la confiance accordée jusqu'ici aux États-Unis. Un autre est allé plus loin. Il a demandé que des représentants de la Banque centrale allemande aillent recompter les barres conservées dans les coffres, comme si Donald Trump allait lui-même se servir directement pour faire payer l'Allemagne. La Bundesbank a balayé la proposition d'un revers de la main, rappelant sa confiance dans l'institution américaine. Mais le fait d'en parler ainsi dans les journaux, c'est tout de même le signe d'une confiance très atténuée entre les deux alliés.
Alors il y a quand même une question qu'on a découvert à cette occasion, hein, pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi l'or de l'Allemagne est-il aux États-Unis ?
C'est le fruit d'une histoire. L'or, vous savez, c'est important pour l'Allemagne, marquée par la période d'hyperinflation dans les années 20. L'or parapluie anti-inflation. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la RFA s'est mise à en acheter des tonnes. Ses réserves se montent aujourd'hui à plus de 3350 tonnes, moitié plus que la France. Et le pays a fait le choix d'en stocker la moitié à l'étranger pour protéger ses réserves en cas de conflit. Une petite partie est hébergée à Londres et plus de 1200 tonnes dorment à New York. Au cours actuel, ce stock américain, il est évalué à plus de 114 milliards d'euros. Mais il n'est pas rare que des pays rangent leurs lingots ailleurs que dans leur pays. Un exemple, une partie de l'or de l'Inde est stockée auprès de la Banque d'Angleterre, de la Fed de New York, mais aussi au siège de la BRI à Bâle, en Suisse.
Ça confirme que l'or reste une valeur refuge, même pour les États, surtout pour les États.
Absolument, David. L'or profite des périodes de tension. C'est un actif tangible qui a encore une signification importante pour les humains. C'est un symbole et c'est en cela que le message de ces députés allemands est fort. Mais cette décision nous dit aussi autre chose. Les banques centrales se ruent sur l'or depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. En particulier, les banques centrales des pays émergents comme la Chine ou l'Inde. C'est aussi une forme de défiance dans les États-Unis et le dollar. De nombreux pays non alignés ont entamé une dédollarisation de leurs réserves. L'utilisation par les États-Unis du billet vert comme une arme contre la Russie a provoqué une forme de prudence des grands argentiers et tout laisse penser que la politique douanière agressive de Donald Trump va encore amplifier le phénomène. L'or a sans doute encore de beaux jours devant lui.
Merci Pierrick, à demain.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Bonjour Guillaume.